Bonjour.
Cette fameuse étude, c'est vous qui l'avez menée avec vos collègues. Comment vous êtes arrivé à ce résultat de 3/4 de miel contaminé? Vous nous expliquez un peu comment ça s'est déroulé?
Alors volontiers, c'est un déroulement assez atypique. On a d'abord commencé un projet de science citoyenne. On a demandé aux visiteurs du jardin botanique de l'université de la ville de Neuchâtel de ramener du miel de leur voyage du monde entier. Les Neuchâtelois voyagent beaucoup, du coup on s'est retrouvé assez rapidement avec des centaines d'échantillons de miel d'horizons divers et variés à notre disposition, qu'on a décidé d'analyser un jour. Le directeur du jardin botanique est venu à l'université, je caricature un petit peu, mais il est venu en disant « Écoutez les gars, j'ai ces centaines de miel du monde entier, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et avec Edouard Mitchell et d'autres collègues, on s'est dit « On va analyser les teneurs en néonicotinoïdes, ces pesticides de synthèse incriminés dans le déclin des abeilles, et faire un état des lieux, une première carte planétaire des contaminations par ces molécules. » Et la deuxième caractéristique, c'est qu'on a utilisé la capacité des abeilles à sonder, en quelque sorte, leur environnement. Vous savez sûrement qu'une abeille va jusqu'à 3, 5, voire même 12 kilomètres de sa ruche pour récolter du pollen et du nectar. Donc, en analysant le miel, en fait, on analyse l'environnement adjacent autour de ces ruches. Une partie du travail était aussi une revue de la littérature. On a eu des résultats dont je parlerai tout à l'heure et on a dû comparer ces résultats avec les connaissances actuelles sur l'effet de ces molécules, les concentrations qui deviennent problématiques pour les abeilles et aussi, dans une certaine mesure, pour la santé humaine.
Ces néonicotinoïdes, ils viennent d'où? C'est quoi?
C'est des pesticides de synthèse, c'est des pesticides qui agissent sur le système nerveux des insectes qu'ils ciblent, donc c'est des molécules qui sont utilisées pour lutter contre des ravageurs, des insectes, pour les tuer. Ça agit sur le système nerveux, ça va les paralyser, ça va amener leur mort assez rapidement.
Et puis justement, des conséquences sur le miel, il y en a évidemment, mais quelles sont-elles sur ceux qui en mangent? Qu'est-ce qui se passe exactement si on mange du miel peut-être sur la durée? Qu'est-ce qui arrive?
Alors peut-être d'abord nos premiers résultats. Donc on a trouvé que 75% de nos échantillons du monde entier étaient contaminés par au moins une de ces molécules. On a découvert qu'aucune région n'était épargnée par ces molécules. Il y en avait un peu partout sur tous les continents analysés. Et on a découvert aussi qu'il y avait des cocktails de ces molécules. Donc 45% de nos échantillons contenaient 2, voire 3, voire 4, voire même 5 de ces molécules ensemble dans un seul échantillon. La concentration qu'on a trouvée était de 1,8 nanogrammes par gramme, mais ça c'est bien en dessous des seuils limites tolérables pour l'alimentation, qui sont de 10 voire 50 nanogrammes par gramme selon les molécules. Donc a priori, à molécule unique, il n'y a pas de risque à consommer ces miels quotidiennement. Après, bien évidemment, consommer ça toute sa vie, consommer un mélange de pesticides et d'horizons divers et variés, nul ne sait ce que ça nous fera sur le long terme.
Alors, Alexandre Ebi, c'est dans la prestigieuse revue Science que l'étude a été publiée. Elle a suscité des réactions tout autour de la planète. Est-ce que vous avez été surpris, finalement, par l'ampleur de ces réactions?
Alors oui et non, on savait bien qu'on publiait un gros article dans un gros papier sur deux gros symboles, un symbole de l'alimentation saine, de la bonne bouffe qu'est le miel. S'il y a un produit qui est censé être pur, c'est bien celui-là. Et le deuxième symbole auquel on s'attaquait, entre guillemets, étaient les abeilles, un symbole de la biodiversité des pollinisateurs. Et donc en fait, on s'y attendait un petit peu. Après, ça a pris une certaine ampleur et on a été dans un premier temps peut-être un peu surpris. Pas tout à fait submergé, mais pas loin. On a réussi à se démener comme il fallait. On a réussi à faire quelque chose. On a réussi à faire porter notre message plus loin. Et c'est ce qui est important.
Des réactions qui étaient contrastées aussi suivant les milieux. Quand on parle, du milieu agricole, de l'industrie chimique, des défenseurs de la nature, des réactions qui ont été vraiment très, très différenciées.
Absolument. Donc ça a été bien reçu dans le milieu scientifique. On a pu mettre en lien tout ce que ces décennies de recherche qui montraient l'effet de molécules individuelles sur des organismes individuels, les abeilles sauvages, et montrer que ça concernait l'ensemble des pollinisateurs. Une bonne réception aussi chez les apiculteurs, on avait pris soin d'eux quelque part, on les avait informés de la publication du papier, on leur a permis de s'armer aux questions posées par des journalistes pour le grand public, on leur a permis de pouvoir expliquer ce qu'il en était et de surtout de profiter de cette opportunité de qu'ils posent eux-mêmes leurs revendications sur la table. Ce qu'ils ont d'ailleurs fait, Happy Suisse a pris position assez clairement contre les néonicotinoïdes suite à la publication de ce papier. Après, bien évidemment, on a publié un grand papier dans un grand journal qui a fait beaucoup de bruit sur des grandes questions environnementales et on a subi quelques attaques de l'industrie. On nous a attaqué sur notre façon d'utiliser 198 échantillons qui représenteraient le monde. En fait, oui, je suis d'accord, c'est pas tout à fait représentatif, mais c'est la plus grande étude publié à ce jour. On nous a attaqué sur quelques façons de calculer les valeurs moyennes, des questions très arithmétiques, très techniques. Somme toute, notre papier est tellement simple qu'il est difficile à attaquer. Donc on nous a attaqué sur ces petites choses sans beaucoup de succès. Et on s'est rendu compte, après quelques mois maintenant, le papier est sorti en octobre dernier, on s'est rendu compte qu'on s'attaquait peut-être un petit peu à notre capacité de communicateur. Donc on est des bons communicateurs apparemment, et apparemment ça dérange un petit peu.
Alexandre Rémy, on parle de cette étude que vous avez menée avec votre équipe, qui aboutit à la conclusion que 3/4 des miels produits sur la planète sont contaminés par des pesticides, parce que moi, pesticides. Pour que les choses s'améliorent, finalement, le premier pas, c'est la prise de conscience de tous les acteurs, y compris des consommateurs. C'est vraiment le premier pas à franchir.
C'est sûrement ça, oui. Je pense que je commencerai même par une prise de conscience peut-être du monde agricole, hein. Peut-être oser plus miser sur les alternatives, oser plus miser sur les ressources naturelles de l'environnement, sur l'agroécologie, sur ces ennemis naturels de ravageurs de cultures, sur ces organismes capables de contrôler des pestes, hein, en lutte biologique. Peut-être aussi être capable de faire un monitoring des problématiques agricoles, et au moment où on a un véritable problème, alors là, peut-être se mettre à traiter avec des produits phytosanitaires. Peut-être miser justement, comme le veut l'agroécologie, miser une partie des ressources et de l'énergie sur le sauvetage et le bien-être de cette biodiversité fonctionnelle qui peut remplir et qui peut jouer son rôle pour le contrôle des ravageurs.
Alors justement, vous avez terminé.
Oui.
Oui. Justement, l'initiative pour une Suisse sans pesticides a abouti tout récemment. On va voter sur le sujet. Pour vous, est-ce que c'est un début de solution ? Est-ce que ça vous semble réaliste ?
J'ai trouvé que c'était une excellente nouvelle d'avoir abouti et d'avoir obtenu ces 145 000 signatures pour cette initiative. Oui, ça sera réaliste. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Il y a la mise en œuvre est planifiée sur 10 ans. C'est quelque chose qui prend du temps. Il va falloir embarquer les agriculteurs, les agronomes, les biologistes. Il va falloir embarquer les économistes, réfléchir aux filières, réfléchir aux façons dont on va pouvoir protéger peut-être aussi le travail des agriculteurs en n'ouvrant pas les frontières à des produits qui, eux, sont produits avec des pesticides de synthèse. Donc oui, il va falloir y travailler. Il va falloir un peu de courage, mais c'est tout à fait réaliste à mon avis.
Le problème, il est mondial. Hein. Une initiative comme celle-ci, elle peut faire boule de neige. Ça peut donner des idées à d'autres pays et puis finalement prendre le problème à bras-le-corps au niveau mondial.
Probablement, les gens du comité d'initiative disent souvent que la Suisse a son rôle à jouer comme trendsetter. On peut montrer l'exemple. Si en Suisse on arrive, d'autres y arriveront aussi. Je pense que c'est un joli défi. Je pense qu'on a aussi une situation peut-être qui le permettrait. On a quand même un bon savoir-faire. On a des bons arguments. On a des jolis produits de niche. On a une capacité de montrer l'exemple, j'espère.
Alors justement, la Suisse va voter pour cela. On va essayer d'amener notre pierre à l'édifice. Mais nous, en tant que citoyens, chacun, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ?
C'est une bonne question. Alors je pense que ça rejoint peut-être notre mode de consommation. Il faut soutenir les agriculteurs innovants, il faut soutenir les apiculteurs, il ne faut pas arrêter de manger du miel parce qu'il y a les traces de pesticides, parce que si on arrête de manger ces choses-là, on arrête de manger tout ce qu'il y a sur nos assiettes. Peut-être qu'il faut être prêt à payer le prix juste pour notre alimentation, hein, et être capable d'investir une part du budget normal, j'allais dire, à notre alimentation. Et en payant le prix juste, on va soutenir les agriculteurs de leur démarche innovante, de leur démarche de circuit court, de leur démarche de reconversion en bio, en biodynamie, je ne sais quoi, essayer de soutenir peut-être cette filière bio pour que cette filière bio devienne majoritaire. Hein. Un des grands problèmes pour les aliments bio, c'est la transformation des produits, c'est le process dans des moulins, par exemple. Il faut d'abord passer, si vous voulez, les produits conventionnels, il faut tout nettoyer, il faut monter les machines, il faut monter les chaînes pour pouvoir passer les produits en bio. Et du coup, ça inflige des coûts de production exacerbés à ces produits bio. Donc je pense que chacun a son rôle à jouer et je pense qu'il faut commencer par ce qu'on met dans nos assiettes peut-être.
Et puis peut-être ne pas jouer les uns contre les autres. Vous le disiez, si on veut faire avancer les choses, il faut pas opposer les gens, mais plutôt travailler main dans la main entre les biologistes, les agriculteurs, le monde de l'économie. Il faut pas opposer les différents secteurs, les différents acteurs.
C'est ça, je pense qu'il faut aborder la question de manière interdisciplinaire. Il faut varier les acteurs, il faut essayer de travailler ensemble, il faut comprendre aussi les contraintes et les attentes de chacun. Ce ne sera pas simple, mais il va falloir travailler ensemble justement pour y arriver.
Le débat continue jeudi soir au Club 44 à La Chaux-de-Fonds. La conférence que vous y donnez, Alexandre Hébi, elle débute à 20h15. On mettra les détails tout à l'heure sur la page de Format 3. On vous remercie beaucoup d'être venu partager ces quelques instants avec nous.
Un grand merci à vous.